Bonjour à tous. Alors, ce matin, nous célébrons ce qu'on peut appeler le début du troisième temps de la divine miséricorde. Vous savez, notre humanité a en elle une soif inextinguible qu'on ne peut pas étancher. Et cette soif, elle la porte tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est la soif de vie. Nous avons soif de vivre, de vie. Et cette soif-là, elle est divine. Dieu la comble au-delà de toutes nos attentes et bien entendu au-delà de tous nos mérites. Mais pour étancher cette soif, il nous faut accepter de regarder là où Dieu nous demande de regarder, d'écouter et d'entendre ce que Dieu veut nous dire. Car il sait que, pris par cette soif, nous avons tendance à courir dans toutes les directions, à la recherche de ce qui, en nous, peut aider à apaiser cette souffrance qui nous habite, on va dire, spirituellement depuis le jardin d'Éden. Car nous avions tout et nous avons tout perdu. Mais ce qui est formidable aussi, c'est que Dieu ne tourne pas le dos à l'humanité. Il ne cesse, dès lors, depuis le jardin d'Éden, depuis le péché originel, à chercher l'homme, à le trouver pour l'aider à découvrir quel est le vrai chemin qui mène à la vraie source d'eau vive. Quel est le vrai chemin qui mène à la plénitude dont la soif nous étreint. Et pour cela, il le fait en trois temps. Parce que c'est un pédagogue. C'est quelqu'un qui sait que s'il nous brusque, nous nous effaroucherons et nous n'avancerons plus. Nous aurons trop peur. Nous n'oserons plus. Ou encore, notre libre arbitre, ce qu'il a consacré en nous dès le départ, se trouvera vicié, pollué et ne servira plus. Car Dieu a besoin de ce libre arbitre pour que notre oui soit un oui et que notre non soit un non. Car celui qui n'est pas libre de son oui et de son non est esclave. Il est dépendant. Il ne peut pas décider par lui-même. Or, dirait saint Paul, il y a en nous un combat permanent. Le combat de la chair contre l'esprit. La chair symbolisant tout ce qui en nous, on va appeler cela l'odeur pesanteur, nature, instinct, qui fait que par instinct, nous cherchons à survivre et que dans ce sens-là, tout est bon, tous les moyens sont bons. On voit des hommes, des femmes et même des enfants adopter des comportements, des attitudes qui moralement sont condamnables, mais qui le font parce qu'ils veulent survivre, parce qu'ils veulent tenir. On a vu des hommes et des femmes qui se jettent sur des obstacles dont ils savent qu'ils peuvent en mourir, mais à la recherche d'une survie. Des hommes et des femmes qui osent des difficultés extrêmement dures parce qu'ils veulent survivre. Alors, Dieu, quand il vient vers nous, il vient comme un père. Un père qui veut donner à ses enfants la possibilité de trouver le chemin de la maison, de revenir à lui et de trouver le bonheur perdu, de retrouver la source véritable qui étanche toute soif. Ça, c'est le premier temps de la divine miséricorde. Mais voyant que nous sommes des fils et des filles, comme dirait la Bible, à la nuque raide, qui ont tenté par plusieurs manières et à plusieurs reprises de vouloir usurper à Dieu ce qui est sa véritable force, sa puissance d'amour, à travers notamment, vous savez, dans la Bible, cet bel exemple qui nous est donné de la tour de Babel. Vous le trouverez en Genèse 11. La tour de Babel, autrement dit, la porte du ciel. Quand l'homme va chercher à égaler Dieu, alors il se trouve que Dieu met la zizanie, l'incompréhension dans leur langage. Ils ne parlent plus le même langage parce qu'ils ont tourné le dos à la source de joie, à la source d'unité. Mais ce même Dieu va par amour encore susciter un deuxième temps, le temps du Fils, le divin entrant dans l'humain, l'invisible devenant visible pour que l'homme voie en face de lui un égal qu'il peut écouter, qu'il peut voir et qu'il peut suivre. Alors ce Fils nous dit, venez à moi, n'ayez pas peur, je vous montrerai le chemin de la vie. Venez à moi parce que vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Il vous aime et vous pardonne. Qu'avons-nous fait? Comme Jésus le dit lui-même, voyant le Fils, nous nous sommes dit, allez, attrapons-le, tuons-le, ainsi nous pourrons posséder en héritage ce qui appartient au Père et au Fils. Et nous avons voulu nous débarrasser de lui. Cependant, il ne se laisse pas saisir, car l'obstacle le plus mystérieux sur notre chemin de vie, qu'est la mort, il l'éclaircit d'un jour nouveau pour nous. En ressuscitant, Jésus nous dit, voyez-vous, rien n'est impossible à l'amour. Si vous aimez, alors vous connaissez Dieu, dirait Saint Jean. Car quiconque aime connaît Dieu, mais celui qui n'aime pas, non seulement il ne connaît pas Dieu, mais il demeure dans la mort. Alors, que va être la plus grande prière de Jésus? C'est de vous aimer. Aimez-vous les uns les autres. Et rien ne peut arrêter l'amour, même pas la mort. Alors aimez, car c'est cela qui est le véritable témoignage de la présence de Dieu au cœur de notre humanité. Mais Jésus sait que nous sommes limités, que nous avons des faiblesses qui en nous empêchent l'amour lui-même de se déployer dans toute sa splendeur, dans toute sa force. Alors il dit, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai quelqu'un, lui, il prendra votre défense, parce que vous aurez à combattre. Et ce combat-là sera inégal si vous n'avez pas avec vous quelqu'un qui peut prendre votre défense et vous protéger. Quelqu'un qui peut vous aider à entrer dans la pleine intelligence de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui peut vous aider à entrer dans la bonne connaissance pour vous aider à avancer. Parce que connaître Dieu, c'est cela la vie éternelle. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Alors c'est l'Esprit Saint qui vous aidera à entrer dans cela. Alors ce troisième temps que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui nous dit que chacun de nous ici n'est plus simplement une chair habitée par une quelconque intelligence. Mais vous êtes un temple, car vous habitez en vous un esprit, l'esprit lui-même, l'esprit de Dieu, qui de tout temps était là, est là et sera là. Cet esprit qui, dirait Saint Paul aux Romains, dans votre cœur atteste que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et en cela, vous êtes des héritiers. Vous avez une telle puissance, vous avez une telle dignité que vous devez être, dirait Jésus, des sels qui donnent à cette terre, à ce monde, aux habitants, à la nature, son goût véritable, sa beauté véritable. Vous êtes des lumières. C'est à vous d'éclairer les hommes et les femmes de votre temps pour qu'ils sachent quel est le vrai chemin qui mène à la vie et qu'ils ne se laissent pas emporter à travers les roulis de l'histoire, à travers les changements, à travers des propositions qui malheureusement ne tiennent aucun compte, absolument aucun compte, de ce qu'est leur véritable dignité. C'est à vous, chrétiens, qu'est donnée cette mission-là. Alors, cet esprit en vous vous permet de crier vers Dieu en l'appelant Abba, Père. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que ainsi nous retrouvons ce Dieu qui, de tout temps, a cherché à libérer l'homme de l'esclavage du péché, de ce qui, en lui, empêche la plénitude de la vie de se manifester dès ici-bas. Oui, ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. Parce que quand nous le verrons face à face, alors s'éclaircira pour nous notre véritable identité. Ce qui fait que vous, comme moi, en apparence, nous sommes de simples gens. Nous sommes des personnes avec leurs peurs, leurs doutes, avec les difficultés qu'ils rencontrent, les souffrances, les inquiétudes, les angoisses, avec la peur du lendemain. Mais nous sommes bien plus que cela. Car Jésus dit, si vous, mon esprit est en vous, alors vous m'appartenez, vous êtes en moi. Et puisque par cela, moi je suis en vous, sachez que le Père est en moi et que le Père et moi, nous sommes un. Alors, faisant ainsi de chacun de nous une partie de ce grand corps, ce corps spirituel que Dieu a consacré au cœur de notre humanité pour non seulement manifester sa présence, mais la magnifier de façon à ce que tout être vivant qui cherche véritablement la sortie, la porte d'entrée vers la plénitude de la vie, voit en vous cette lumière qui l'aide à discerner et à avancer. Alors, accueillons l'Esprit Saint. Laissons l'Esprit Saint habiter en nous de par notre baptême. Nous l'avons déjà reçu. Mais comment se fait-il que les chrétiens aussi tremblent avec ceux qui ont peur? Comment se fait-il que les chrétiens restent saisis avec ceux qui ne savent pas vers où s'orienter, vers quoi aller? Comment se fait-il que les chrétiens, eux aussi, sont habités par le doute, l'incertitude, cette angoisse existentielle qui fait que parfois leur comportement ne les différencie pas tellement des autres? Alors prions, prions pour l'effusion de l'Esprit. Vous savez, quand les apôtres arrivaient dans une communauté chrétienne, la première des questions c'était, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Est-ce que vous avez été baptisé dans l'Esprit? Être baptisé dans l'Esprit, c'est le baptême que nous recevons. Mais ce baptême-là ne prend toute sa dimension que quand nous laissons en nous s'éveiller la force de l'Esprit. Quand nous nous laissons véritablement habiter et que l'Esprit soit celui qui nous oriente, qui prend la tête et qui nous dirige. Malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes ne laissent pas l'Esprit Saint prendre le relais. Oui, parce qu'ils ont une telle opinion d'eux-mêmes que pour eux, faire un geste, un comportement qui va dans le sens de l'Esprit peut être considéré comme quelque chose de gênant, de pas correct, d'humiliant. Alors du coup, ils n'osent pas se montrer. Ils n'osent pas se montrer. L'Esprit Saint se manifeste à travers la joie et la paix. Mais quand des chrétiens qui sont en joie restent statiques, ils ne bougent pas, comment voulez-vous que les autres perçoivent votre joie? Il n'y a même pas un sourire sur les lèvres. Comment voulez-vous qu'on sente que vous êtes joyeux et que cette joie contamine les autres? Quand des chrétiens se cachent parce qu'ils ont honte, qu'ils ont peur, comment voulez-vous que l'on sente qu'ils sont sereins, qu'ils sont en paix et que cette paix soit attrayante pour les autres, qu'ils veuillent venir à vous et vivre la même chose? Ce n'est pas possible. Alors, pour achever, permettez-moi simplement d'invoquer l'Esprit Saint pour une effusion au sein de nos communautés, dans nos familles, dans nos cœurs, pour que le don de cet esprit nous aide à devenir vraiment chrétiens. chrétiens là où nous vivons, chrétiens là où nos pas nous conduisent, en étant fiers de notre foi et en la célébrant aux yeux de tous.
Jésus, je te rends grâce pour l'envoi de ton esprit, afin que nous vivions une vie nouvelle en union avec toi. Renouvelle en nous le don de ton esprit, remplis-nous davantage de ses merveilles. Comble-nous toujours de sa plénitude, de manière à ce que nous trouvions de nouvelles lumières dans les Écritures, un goût nouveau dans le témoignage et la persévérance dans la prière. Fais, Seigneur, que nous puissions te trouver quand nous recevons les sacrements, pour aimer comme tu aimes, pardonner comme tu pardonnes, intercéder comme tu intercèdes, être témoin comme tu fus témoin de la vérité. Par ta grâce, que nous utilisions les dons dont tu nous combles pour le bien de ton peuple, afin de goûter la paix et la joie que tu as promises à ton Église. Remplis-nous de ton esprit, ô Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, ô Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, ô Seigneur. Car nous désirons être transformés et recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous t'en supplions dans le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles.